Porteuse de pain, troisième partie, chapitre 46 à 50. Ovide, rentré au café, attendait et à travers le vitrage regardait au dehors. Il vit au bout d'une demi-heure le commissionnaire se réinstaller à sa place habituelle. Certain que la commission était faite, il s'en alla le long des quais, avec une tranquille allure de bon bourgeois flâneur, en fredonnant un air d'opérette. Le chef de la sûreté étudiait un dossier au moment où le garçon de bureau entra pour lui donner la lettre envoyée par Ovide. Il la prit, déchira l'enveloppe, jeta les yeux sur son contenu, et sa physionomie s'anima. « Ah ah ! » murmura-t-il ensuite. « Voilà une dénonciation sur laquelle je ne comptais pas. Elle arrive d'ailleurs fort à propos, car les agents, découragés par l'insuccès, ne mettaient plus guère de zèle aux recherches. La personne qui écrit ceci paraît être certaine de son fait. Ce doit être quelque ancienne détenue de Clermont qui vient de reconnaître sa compagne de captivité et se fait une joie de nous la livrer. Je profiterai du renseignement. D'où qu'il vienne, il doit être bon. » Le magistrat frappa sur son timbre et aussitôt le garçon de bureau se présenta. « Voyez au poste des agents, » lui dit le chef de la sûreté. « Brichard et Montel doivent s'y trouver. Vous me les enverrez sur le champ. » Quelques minutes s'écoulèrent, puis la porte se rouvrit et les deux agents désignés parurent et furent accueillis par cette question. « Où en sont à Paris les recherches faites pour retrouver Jeanne Fortier, l'évadée de Clermont ?» « Monsieur le chef de la sûreté, a-t-il lu notre rapport ce matin ?» répondit Brichard. « Pas encore. M'annonçait-il un résultat quelconque ?»« Hélas, non. L'évadé de Clermont reste introuvable. »« Ainsi, pas un indice. »« Pas un. Montel et moi, nous avons une conviction. »« Laquelle ?»« Celle que Jeanne Fortier n'est point à Paris et se cache quelque part en province. »« Jeanne Fortier est à Paris, » répliqua le chef d'un ton sec. Les deux agents ne se permirent point de répondre négativement, mais ils échangèrent un regard où se lisait l'incrédulité la plus complète. « Vous doutez de la valeur de mon affirmation ?» poursuivit le magistrat. « Dans quelques heures, vous aurez la preuve que vous cherchez mal, et que c'est moi qui suis bien renseigné. »« La preuve ?» répéta Brichard. « Parfaitement. Connaissez-vous un établissement de marchands de vin restaurant qui porte pour enseigne ces mots « Rendez-vous des boulangers ?» « Oui, monsieur. Cet établissement se trouve rue de Seine. »« Quelle est sa réputation ?»« Excellente. Maison honnête, tranquille, n'ayant point de clientèle suspecte. »« C'est là que se réunissent les garçons boulangers, les porteurs et les porteuses du quartier. »« On y donne aujourd'hui un banquet en l'honneur d'une porteuse de pain qui s'appelle ou se fait appeler Lise Perrin. »« Prenez note de cela. »« Bien, monsieur. C'est à midi que commence ce banquet. » L'évadé de Clermont s'y trouvera. Jeanne Fortier ? S'écrièrent les deux agents surpris. Oui. Est-ce que ce serait Lise Perrin ? Peut-être. Quoi qu'il en soit, pendant le repas, un incident se produira qui forcera l'évadé à se trahir. Quel incident, monsieur ? Je l'ignore. Je sais seulement qu'il aura lieu. À vous d'en tirer parti. Vous trouverez tous deux moyen de vous introduire au rendez-vous des boulangers. Ce qui ne doit pas être difficile puisque l'établissement est public. Là, vous observerez en attendant que l'incident annoncé se produise. Lorsque vous serez convaincu que Lise Perrin ou tout autre est bien Jeanne Fortier, vous agirez. C'est compris ? Oui, monsieur. Vous n'avez pas besoin de mandat d'amener, puisqu'il s'agit non d'arrêter une criminelle, mais de reprendre une fugitive. Les pouvoirs dont vous êtes munis suffisent. Allez ! Et cette fois, méritez des éloges. Nous tâcherons, monsieur. Les deux agents sortirent du cabinet. Brichard regarda sa montre. Les aiguilles indiquaient seulement 10 heures. 2 heures devant nous, fit-il. Nous avons plus de temps qu'il ne nous en faut pour tirer nos plans. Point n'est besoin de tirer des plans, répliqua Montel. Comme le patron le disait tout à l'heure, le rendez-vous des boulangers est un débit de 20 restaurants. par conséquent un établissement public. Quoi qu'il y ait un banquet aujourd'hui, on ne peut pas refuser de nous y servir à déjeuner. Nous y déjeunerons donc.
D'accord. Mais si on nous met dans une autre salle que celle où aura lieu le banquet, nous serons bien avancés.
Il n'y a que deux salles communiquant l'une avec l'autre. Je connais la maison.
Dans ce cas, tout va bien.
Il faut changer de costume et nous habiller en ouvrier.
Je rentre chez moi, fais-en de même.
Où nous retrouverons-nous?
Devant l'Institut.
À quelle heure?
À 9:50.
Convenu.
Les deux policiers se séparèrent et tirèrent chacun de son côté.
À 10 heures très précises, Étienne Castel se présentait rue des Dames à la demeure de Mademoiselle Amanda. Le concierge le reconnut.
« J'ai remis votre carte, monsieur, » lui dit-il. « Monsieur Duchemin est en haut, il vous attend. C'est au 4e, la porte à gauche. »
L'artiste monta vivement.
Arrivé au 4e, il reprit haleine et sonna.
L'ex-employé de la mairie de Joigny vint lui ouvrir.
« Entrez, entrez, monsieur, » fit-il d'un ton joyeux. « Vous venez sans doute m'annoncer que vous avez découvert la demeure d'Ovide Soliveau. »
Étienne Castel secoua la tête.
« Je viens, au contraire, vous demander si vous avez trouvé la piste de ce drôle, » répliqua-t-il.
« Hélas, non, monsieur. Depuis 3 jours, je me suis attaché au pas de Paul Armand, mais il n'est sorti de chez lui que pour aller à l'usine de Courbevoie, et de l'usine de Courbevoie que pour rentrer à son hôtel. »
« Ainsi, rien, rien, pas une trace, » fit Étienne avec découragement.
« Absolument rien, et je crains fort que le Soliveau, s'apercevant qu'il avait été suivi, et n'ayant pas la conscience nette, tant s'en faut, n'ait pris peur et quitté Paris.
Le diable alors serait contre nous.
Et aucun moyen de s'assurer du plus ou moins de fondement de votre conjecture.
Tout à l'heure, en vous attendant, je cherchais ce moyen. Je passe mon temps à discuter avec moi-même des impossibilités.
Cependant, une idée m'est venue.
Dites-moi bien vite laquelle. Peut-être est-elle bonne.
J'avais imaginé d'envoyer à Paul Armand une dépêche signée du nom d'Ovide Soliveau.
Que contiendrait cette dépêche?
Ces mots seulement. Ce soir, chez moi, urgent. Et la signature, Ovide. Après avoir reçu ce télégramme laconique, Paul Armand, inquiet, ne manquera pas de se rendre à l'appel de son complice. Je serai aux aguets. Je le suivrai, et par lui je découvrirai où demeure ce misérable gredin de Soliveau.
Comment trouvez-vous mon idée?
Excellente en soi, mais présentant certaines difficultés et certains dangers.
Lesquels?
Si, comme vous le supposiez tout à l'heure, Soliveau a pris la fuite, Paul Armand, devinant qu'on lui tend un piège, se tiendra sur ses gardes et ne sortira pas de chez lui.
C'est vrai. Seulement, il peut ignorer que son complice a quitté Paris. Il peut croire qu'il vient d'y revenir. Dans tous les cas, c'est une chance à tenter.
C'est vrai. Mais il y a autre chose.
« Parlez, monsieur.
Admettons qu'Ovide soit à Paris.
Paul Armand va chez lui, le trouve et lui dit
« J'ai reçu votre dépêche. Me voici. Que me voulez-vous ? »
« Eh bien,
Ovide, qui n'aura rien envoyé, verra le traquenard et sera par cela même averti du danger qui le menace.
Il mettra le faux télégramme sur le compte d'Amanda.
D'ailleurs, que nous importe ? Pendant qu'ils s'expliqueront, je me tiendrai prête à agir. »
« Et que ferez-vous ? »
« J'attendrai que Paul Armand soit sorti de chez Soliveau. Alors, je viendrai sonner à sa porte. Il m'ouvrira, sera certainement étonné de me voir, mais ne se défiera point de moi et me fera entrer, n'ayant aucun prétexte pour refuser de m'accueillir. Aussitôt en tête à tête, sachant ce que je sais sur son compte, je vous jure que je parviendrai à lui arracher la vérité. Quand on a peur de la justice, quand on croit toujours sentir sur son épaule la main d'un agent, on devient lâche. Je l'ai prouvé lamentablement, moi qui étais lâche devant cet homme, autant qu'il le sera devant moi.
Mais dans un premier mouvement de colère, Soliveau peut vous tuer.
C'est possible, en effet, mais cela ne doit point entrer en ligne de compte. Il faut que je rachète mon passé en livrant au juge un homme que nous croyons coupable d'un assassinat. J'y laisserai ma vie s'il le faut, mais je ne reculerai pas. Je tenterai l'impossible. Sans imprudence folle, d'ailleurs, et je m'arrangerai de façon à tenir Soliveau en respect. Croyez-moi, monsieur, le moyen que je vous propose n'est pas mauvais, puisqu'il est pratique. Je crois fermement qu'il réussira.
Je le crois comme vous, répondit Étienne Castel, et puisque vous êtes décidé à le mettre à exécution, envisageons-le sous toutes ses faces.
« Parlez, monsieur, » fit Duchemin.
« Supposons qu'Ovide Solivo soit à Paris, mais qu'il ne se trouve point chez lui au moment où Paul Armand, amené par notre dépêche, s'y présentera.
J'ai prévu le cas.
Alors, ce cas échéant, que ferez-vous ?
Je profiterai de son absence pour m'introduire dans sa demeure, fouiller partout et m'emparer de tous les papiers.
« Malheureux !» s'écria l'artiste. « Mais c'est un crime prévu et puni par la loi que vous méditez là. »
« Un tel misérable me paraît hors la loi. »
J'ai la conviction qu'on ne peut être coupable en agissant contre lui.
Les juges ne seraient point de cet avis, soyez-en sûrs.
Tant pis pour les juges. Quoi qu'il en puisse résulter d'ailleurs, je me risquerai.
Puisque votre résolution est prise irrévocablement, je ne la combattrai pas.
Où comptez-vous adresser la dépêche destinée à Paul Armand ?
Sera-ce à Courbevoie ? Sera-ce à son hôtel de la rue Murillo ?
Ceci est plus embarrassant.
Ne l'ayant point épié et suivi ce matin comme de coutume, puisque je vous attendais, j'ignore s'il est allé à l'usine et même s'il est sorti.
Nous allons le savoir.
Comment ?
Je vais me rendre en personne rue Murillo et demander Paul Armand.
Vous ne craignez pas ?
Commença Duchemin.
Je n'ai absolument rien à craindre, interrompit Étienne Castel. Si je trouve notre homme, je serai parfaitement reçu, n'en doutez pas.
Et je saurai composer mon visage de façon à ce qu'il ne soupçonne point le motif qui m'amène.
Paul Armand me connaît. Je suis en relation avec lui. Ma visite semblera toute naturelle.
Allez donc, monsieur. Dois-je vous attendre ici ?
Non, venez avec moi. Il importe de ne nous séparer que lorsque nous serons d'accord sur tous les points.
Vous m'attendrez dans un café du boulevard Malesherbes où vous ferez préparer à déjeuner.
J'irai vous y rejoindre.
Partons alors.
Avez-vous une arme ?
Oui, un revolver.
Prenez-le.
C'est ce que j'allais faire.
Raoul Duchemin ouvrit un tiroir dans lequel se trouvait un revolver qu'il mit dans sa poche après s'être assuré que les 6 cartouches étaient à leur place.
Chemin faisant, je m'arrêterai chez un quincaillier, dit-il ensuite.
Pourquoi faire ?
Je désire acheter une pince afin de forcer au besoin la porte d'Ovide Solivo.
Maintenant, monsieur, je suis à vos ordres.
Un mot encore. Fit Étienne en tirant de son portefeuille la dépêche qu'il avait reçue du maire de Joigny, et en l'attendant au jeune homme, « Lisez ceci !»
Raoul prit la dépêche, en parcourut le contenu et devint très rouge.
« Vous voyez que je me suis occupé de vous !» poursuivit l'artiste.
« J'ai écrit une lettre à qui de droit, donc vous n'avez rien à craindre. De même que si vous étiez pris en flagrant délit d'effraction à la porte d'Ovide Solivo, on vous arrêterait certainement. » Mais je ne crois pas m'avancer trop en affirmant que le lendemain, je vous ferai mettre en liberté.
Je vous remercie, monsieur, de votre puissante protection, et croyez que je suis reconnaissant.
Les deux hommes quittèrent la maison de la rue des Dames.
La voiture d'Étienne Castel, un coupé de Régie, stationnait devant la porte.
Ils y montèrent.
Rue Murillo, vivement, dit l'artiste au cocher. Vous avez un bon cheval, brûlez le pavé.
La voiture partit à la plus rapide allure.
À l'entrée de la rue Murillo, Duchemin descendit, après s'être mis d'accord avec Étienne Castel, au sujet du café-restaurant où il irait attendre, puis la voiture roula de nouveau vers l'hôtel. L'artiste sonna.
« Monsieur Paul Armand est-il chez lui ? » demanda-t-il au concierge qui le reconnut et répondit
« Non, monsieur, mais mademoiselle recevra certainement monsieur. »
Le concierge prit la carte que lui tendait l'artiste, frappa sur un timbre et précéda le visiteur jusqu'au vestibule où il remit cette carte aux mains du valet de chambre, Théodore.
« Mademoiselle est au salon, » dit ce dernier. « Je vais la prévenir. »
2 minutes plus tard, Étienne était introduit près de Mary, qui se leva pour venir à sa rencontre. La jeune fille était d'une pâleur mortelle. Son visage amaigri, taché de rouge sur chaque pommette, n'offrait plus de vie que dans les grands yeux brillants du feu de la fièvre. Étienne Castel, en la voyant, éprouva une pitié profonde. La pauvre enfant est innocente des crimes de son père, pensa-t-il. Combien il vaudrait mieux qu'elle mourût tout de suite et qu'elle n'assistât pas à l'écroulement de sa maison.
Quel bon vent vous amène, cher grand artiste ?
Demanda Mary avec un sourire qui faisait mal à voir sur ses lèvres blanches.
Venez-vous me demander à déjeuner ?
Ce serait une heureuse inspiration. Je suis seule et vous me feriez plaisir en me tenant compagnie.
« Je regrette, mademoiselle, de ne pouvoir accepter une si gracieuse invitation. »«
Pourquoi ne le pouvez-vous pas ?
J'ai déjeuné déjà.
Tant pis. Est-ce moi ou mon père que vous veniez voir ?
C'est monsieur Armand. Je n'aurais pas osé espérer être reçu par vous de si bonne heure.
Mon père est à l'usine. Aviez-vous quelque chose de pressé à lui dire ?
Je voulais lui demander l'autorisation de visiter ses ateliers. Je songe à peindre un intérieur de fabrique.
Vous allez donc vous rendre à Courbevoie ?
Oui.
Eh bien, vous y trouverez certainement mon père, non seulement ce matin, mais jusqu'à ce soir, car il m'a prévenu qu'il ne rentrerait pas dîner, ayant à préparer de grands travaux qui le retiendront fort tard. J'irai lui rendre visite, et j'espère que je ne le dérangerai pas.
Vous ne le dérangez jamais. Il est toujours heureux de vous voir, vous le savez bien.
Travaillez-vous à mon portrait ?
Non, depuis quelques jours. Mais soyez sans inquiétude, il sera prêt à l'époque désignée. Je vais m'y remettre. J'ai dû interrompre mon travail pour un petit voyage. Je suis allée en Bourgogne, à Dijon.
Le pays de mon père ?
Oui, et on m'a parlé de lui là-bas.
Mary fit un geste de surprise.
Comment ? S'écria-t-elle. On se souvient encore de lui dans une ville qu'il a quittée depuis si longtemps ?
Parfaitement, oui, mademoiselle. Monsieur Armand est célèbre.
Le bruit de sa haute situation en Amérique, et aujourd'hui en France, ne pouvait manquer d'arriver à ses compatriotes. Ils sont fiers de lui.
Il n'a plus de famille là-bas, je crois.
Je le crois aussi, ce qui n'empêche pas qu'on parle beaucoup de monsieur Armand dans les termes les plus flatteurs, ainsi que de son cousin. Le seul parent qui lui reste, dit-on. Vous savez quel est ce cousin ?
Oui, oui, un original, le cousin Ovid.
Ovid ? Répéta l'artiste.
Ovid Solivo, à qui mon père a vendu son établissement en quittant New York.
Je suis très heureuse, je vous assure, qu'il ne soit point revenu en France avec nous.
Pourquoi donc ?
Il me déplaisait souverainement. Je n'ai jamais pu m'habituer à sa façon de parler, à ses manières.
Bref, il est resté en Amérique.
À ma grande satisfaction, oui.
Et depuis votre départ de New York, il n'a fait aucun voyage à Paris ?
Heureusement, grand Dieu ! Il me semble que je le trouverai encore plus intolérable ici que là-bas.
Étienne se leva.
Vous partez déjà ?
Fit Mary.
Oui, mademoiselle, je vais à Courbevoie.
Vous n'oublierez pas la signature de mon contrat ?
Je n'aurai garde.
À bientôt, alors.
À bientôt, oui, mademoiselle.
L'artiste serra la main de la jeune fille et quitta le salon, puis l'hôtel. Cet enfant ignore que Solivo est à Paris, pensait-il en regagnant sa voiture. Pour elle, il habite toujours New York, où il exploite l'établissement de son père. Qu'est-ce que cela signifie ? On se perd au milieu de ces ténèbres. Étienne Castel se fit conduire au café où l'attendait du chemin. « Paul Armand est à l'usine, lui dit-il, et ne rentrera pas dîner à son hôtel. »«
C'est qu'il a disposé de sa soirée, répliqua l'ex-employé de la mairie de Joigny.
« C'est probable, pour ne pas dire certain. »
S'il allait quitter Courbevoie avant de recevoir la dépêche que je dois lui envoyer,
n'ayez crainte, je l'en empêcherai.
Le déjeuner est-il commandé ?
Oui, monsieur, on vous attendait pour servir.
Déjeunons vite alors, car nous n'avons pas de temps à perdre. En moins d'une demi-heure, le repas des deux hommes était terminé.
Étienne solda l'addition et remonta en voiture avec du chemin. Il était midi.
Conduisez-nous au bureau télégraphique le plus proche, commanda l'artiste au cocher.
Le coupé s'arrêta devant le bureau des postes et des télégraphes du boulevard Malesherbes. Les deux hommes entrèrent et la dépêche suivante fut expédiée. Paul Armand, constructeur mécanicien, Courbevoie. Attendrai chez moi ce soir, 9h, très urgent. Ovid. La dépêche expédiée, Étienne Castel et Duchemin regagnèrent leur véhicule.
« Où allons-nous maintenant ? » demanda le cocher.
« Au pont de Neuilly, » répondit le peintre. Le coupé roula de nouveau. À l'extrémité du pont, Raoul descendit, indiqua du geste à son compagnon l'endroit qui lui servait habituellement d'observatoire, et lui dit « Je vais attendre là. »«
C'est convenu, » répliqua l'artiste.
« Je ferai en sorte de ne quitter notre homme qu'au moment de le laisser libre pour aller à son rendez-vous. Donc, je ne vous reverrai pas ce soir. Mais cette nuit ou demain matin, je vous attendrai chez moi. Bon courage et point de faiblesse.
Oh, soyez sans crainte.
Je trouverai moyen de vous prévenir si par le fait de Paul Armand, il fallait modifier quelque chose à nos plans.
Espérons qu'il n'en saura rien.
Étienne se fit conduire à l'usine. Le millionnaire, arrivé dès le matin, avait donné des ordres à tout son personnel pour les travaux de la journée, car ayant rendez-vous avec Ovid depuis plusieurs jours, il lui faudrait aller chez son banquier pour y prendre la somme destinée à son complice. Paul Armand n'avait point encore reçu la dépêche que nous avons vue Soliveau lui adresser en quittant l'avenue de Clichy, et il comptait occuper ainsi sa journée. Après avoir touché de l'argent chez son banquier, il irait voir Georges Darier afin de lui parler d'une affaire qui devait venir prochainement devant le tribunal civil et dans laquelle le jeune avocat plaiderait pour lui. Il visiterait ensuite diverses personnes et reviendrait à Courbevoie attendre son pseudo-cousin. L'emploi de son temps se trouvant réglé d'avance, il s'était entendu avec Lucien Labroux et il allait quitter l'usine lorsqu'on lui apporta un télégramme. C'était la dépêche d'Ovid contremandant le rendez-vous donné. Paul Armand la lut et fut singulièrement surpris et contrarié. « Ah ça, quelle mouche le pique » fit-il avec un froncement de sourcils qui en disait long. « Je voudrais le savoir déjà bien loin. Que signifie ce retard? Qui peut le causer? Une absurde lubie sans doute, car rien dans ces mots n'est de nature à me faire supposer un incident fâcheux. Eh bien, nous remettrons à demain nos adieux. Il faut cependant que je fasse prévenir Georges Darier. Je passerai la journée dans mon bureau et je rentrerai à l'hôtel dîner avec Mary. » Paul Armand avisa Lucien Labroux du changement survenu dans ses projets, écrivit une longue lettre à Georges Darier, y joignit les dernières pièces de procédure qui lui avaient été signifiées et envoya son garçon de bureau porter le tout rue Bonaparte. À 11 heures, il fit appeler Lucien. « Nous déjeunerons ensemble, mon cher enfant, » lui dit-il. Lucien s'inclina en signe d'assentiment et suivit le millionnaire au restaurant où ce dernier déjeunait quelquefois. Laissons-les s'attabler et voyons ce qui se passait pendant ce temps rue de Seine au rendez-vous des boulangers. Selon son habitude quotidienne, Jeanne Fortier y avait fait une apparition de grand matin. Les garçons boulangers et les porteuses de pain qui s'y trouvaient déjà lui parurent avoir une attitude mystérieuse et singulière. On ne se montrait pas communicatif avec elle ainsi que de coutume. On chuchotait dans les coins en la regardant. Ceci l'intrigua si fort qu'elle interpella le Lyonnais, ce brave garçon qui travaillait pour la boulangerie Lebray, et lui demanda. « Ah ça, qu'est-ce que vous avez donc tous? On a l'air de me tenir à l'écart, de se défier de moi. On me regarde d'une drôle de manière. » Le Lyonnais s'avança en se dandinant d'un air embarrassé. « Je vais vous dire, maman Lison, » répliqua-t-il. « C'est qu'on a quelque chose à vous annoncer. » Et quand vous êtes entrée, on se disputait à qui ne prendrait pas la parole. Jeanne songea tout à coup à son passé, ce passé sinistre qui peut-être allait se dresser devant elle. Brusquement, elle devint très pâle. « C'est donc quelque chose de pénible qu'on veut m'apprendre ? » balbutia-t-elle d'une voix tremblante. Ce fut la patronne de la maison qui prit la parole et répondit. « Quelque chose de pénible ? Non pas. Bien au contraire, maman Lison. Il n'y avait pas besoin d'aller par quatre chemins pour arriver à ce qu'on veut vous dire. Ça va tout seul. Voilà ce que c'est. « Oui, oui, c'est ça. Parlez, expliquez la chose !» crièrent plusieurs voix. « Vous savez que tout le monde vous aime et vous estime ici, » poursuivit la patronne. « Les employés de la maison, les clients, mon mari et moi. Tout le monde, enfin, vous regarde comme la crème des braves femmes. Je sais que parmi tant de bons cœurs, je n'ai que des amis. » interrompit la porteuse de pain, émue jusqu'aux larmes. « Et des vrais, vous pouvez vous en vanter, maman Lison, » appuya le tourangeau. « Et si jamais vous aviez à vous plaindre de n'importe lequel d'entre nous, je vous garantis que les autres lui feraient passer un vilain quart d'heure à celui-là. Mais, Motus, la parole est à notre bourgeoise. Elle s'en sert trop bien pour qu'on la lui prenne. » La patronne continua. « On a eu grand chagrin, maman Lison, quand on a su l'accident qui vous était arrivé. » Et je vous garantis que si vous étiez venu à mourir des suites de l'affaire en question, on vous aurait fait un convoi dans le soigner. Quelque chose de vraiment coquet. Mais heureusement, ce n'est pas de convoi qu'il s'agit. Les braves gens qui viennent ici et qui vous connaissent se sont dit les uns aux autres. Puisque la chance a permis que notre bonne mère Lison en réchappe, quand elle devait être écharpée, il faut nous réjouir et lui prouver que nous l'aimons en lui offrant un beau bouquet et un banquet par souscription, dont elle aura, comme de juste, la présidence d'honneur.
Voilà. Jeanne pleurait de joie. Ah, mes amis, commença-t-elle. Il lui fut impossible de continuer. L'émotion lui coupa la voix. Le bouquet viendra en même temps que le banquet, à midi sonnant, poursuivit la patronne. Et au nom de tout le monde, je vous certifie que c'est de grand cœur que nous boirons à votre santé.
Ah, mais oui, ah, mais oui,
crièrent avec un ensemble parfait les garçons boulangers et les porteuses de pain. L'évadé de Clermont se laissa tomber dans les bras que lui tendait la maîtresse de l'établissement, puis ce furent des poignées de main, des accolades à n'en plus finir.
54 à table,
glapissait le Lyonnais en esquissant un pas de haute fantaisie.
Plus que ça de festival. Et on ne parlera pas politique. À Chaillot, la politique et les politiqueurs. On chantera tout le temps et au dessert, on pincera un rigodon soigné. Je ne vous dis que ça.
Jeanne bégayait.
Merci, merci mille fois de toute mon âme, mes bons amis. Oh oui, je viendrai m'asseoir au milieu de vous. Je viendrai prendre ma part de ce repas qui me prouve votre amitié. Et je suis bien heureuse. Merci, merci.
Le cœur trop plein déborda. La pauvre femme, pour qui la joie jusqu'à ce jour avait été un sentiment à peu près inconnu, éclata en sanglots.
« Voyons, voyons, maman Lison, fit la patronne. « Faut pas pleurer comme ça. On croirait que vous avez du chagrin. C'est le trop grand contentement.
Nous savons bien, mais vaut mieux rire. D'abord, c'est plus gai. Avalez-moi une petite goutte de mélécasse et à la besogne. » Jeanne Fortier prit le verre qu'on lui tendait et trinqua avec tout le monde.
« Allons, mes bons amis, dit-elle. À midi, on sera exact et on tâchera de se faire belle. »
Puis elle sortit accompagnée par un hourra général. « Nous, les enfants, fit alors la patronne en s'adressant à la servante et aux garçons, il ne s'agit pas de flâner. On va réunir toutes les grandes tables au milieu de cette salle. Il faut 54 couverts. Arrangez-vous pour qu'on ne soit pas trop serré. »
« Et les petites tables, bourgeoises ?»
demanda Marianne. « Qu'est-ce qu'on en fera ?»«
Il s'agit de songer au commerce, ma fille. Même quand on est en fête, on en laissera quelques-unes sur les côtés, le long des murs, pour les clients qui pourraient venir.
Allons, allons, haut la patte et dépêchons-nous. Nous avons de la besogne jusqu'à midi. »«
Vous, Jacques, » ajouta la patronne en s'adressant au sommelier, « vous allez descendre à la cave. Il faut 54 bouteilles de Mâcon ordinaire. Une par personne. On la placera en face de chaque couvert. Une bouteille de Bordeaux Médoc pour 5, ça fait 11 bouteilles. 5 bouteilles de Madère et du cognac qu'on transvasera dans des carafons avec des liqueurs douces, anisette et cassis pour les dames. On les mettra dans les carafons aussi. Pas les dames, les liqueurs douces. On montera le champagne au moment. »
Chacun se mit à l'œuvre et bientôt la table se dressa dans la grande salle. Cette table fut recouverte de drap blanc en guise de nappe et grâce à l'activité générale, le couvert fut bientôt dressé. Rejoignons Ovide Soliveau. Tout en fredonnant un air d'opérette, nous l'avons dit, Soliveau, pimpant et rasé de frais, avait suivi les quais pour se rendre au rendez-vous des boulangers. Il traversa le Pont-Neuf, gagna l'Institut par le quai Conti, s'engagea dans la rue de Seine et il allait dépasser la rue des Beaux-Arts lorsqu'une voiture de place, sortant de cette rue, le contraignit à monter sur le trottoir pour la laisser passer. La voiture fila. Ovide n'avait pas eu le temps de voir une tête de femme, derrière la vitre, un visage de connaissance qui, en l'apercevant, prit brusquement une expression de surprise. Le Dijonnais continua sa route sans se tourner. Tout à coup, la voiture s'arrêta. Mademoiselle Amanda, que nos lecteurs ont deviné déjà, venait de dire au cocher
« Tournez et allez au pas !»
Le cocher obéit. L'essayeuse de Madame Augustine mit la tête à la portière et suivit des yeux l'homme qu'elle avait aperçu.
« Je ne me trompe pas, » murmurait-elle. « C'est bien lui. Je l'ai reconnu du premier coup d'œil, malgré son déguisement et quoi qu'il ait fait couper ses moustaches et ses favoris. Le hasard que j'appelais en vain à mon aide depuis si longtemps me le fait rencontrer enfin. Je profiterai de l'occasion. »
En monologuant ainsi, Mademoiselle Amanda ne perdait point de vue l'ex-baron Arnold de Reis qui, sans défiance, continuait sa route. Soudainement, elle cessa de le voir. Il venait d'entrer dans un établissement de marchands de vin restaurateurs. La jeune femme descendit du fiacre.
« Je vous quitte, »
dit-elle au cocher en lui mettant dans la main une pièce de 100 sous et une carte de Madame Augustine.
« Vous allez aller à cette adresse, porter les étoffes qui sont dans la voiture. »«
Bien, ma petite dame. Si on vous demande, ce qui est certain, pourquoi je ne suis pas avec vous, vous répondrez qu'une affaire imprévue me retient dehors et que je rentrerai le plus tôt possible. »«
Suffit. Donnez-moi votre numéro. »«
Voici. » Le cocher tourna bride de nouveau et s'éloigna. Amanda, baissant sur sa figure la voilette épaisse de son chapeau, se dirigea vers l'établissement dont Ovide venait de franchir le seuil, qui n'était autre que le rendez-vous des boulangers. En passant, elle jeta un coup d'œil dans la boutique, où se trouvait un comptoir de marchands de vin et 2 ou 3 petites tables rondes. Cette boutique n'était occupée que par le patron assis au comptoir, mais on voyait au fond, par la porte ouverte, une vaste salle au milieu de laquelle se dressait une table de dimension tout à fait inusitée. Autour de cette table allaient et venaient des servantes, puis, au fond, près d'un fourneau, l'homme en qui l'essayeuse reconnaissait Ovide Soliveau. Amanda entra résolument dans la boutique et demanda au marchand de vin.
« Avez-vous un cabinet, monsieur ?»«
Oui, madame. Un cabinet tout frais. En voilà la porte. » Et le patron désignait le cabinet que nous connaissons et qu'un vitrage séparait de la grande salle.
« Veuillez me le donner, reprit Amanda, et me faire servir à déjeuner.
« Qu'est-ce que madame mangera ?»«
N'importe quoi, ce que vous aurez. Une tranche de viande, chaude ou froide, avec une demi-bouteille de vin blanc et de l'eau de Sels. »
« Tout de suite, madame, donnez-vous la peine d'entrer. »
Amanda se glissa dans le cabinet dont elle referma la porte derrière elle.
« D'ici, je ne le perdrai pas de vue, » se dit-elle en soulevant un des coins du rideau de mousseline étendu sur le vitrage. « Je le verrai sortir, je le suivrai s'il le faut, jusqu'à ce soir. » Et je parviendrai à savoir où il demeure et ce que signifie ce nouveau déguisement. »
En ce moment, le bruit d'une conversation dans la grande salle arriva très distinctement jusqu'à la jeune femme par le vasistas entrouvert. Étonnée d'entendre si bien les voix, elle prêta l'oreille.
« Voyons, voyons, il ne faut pas me faire jaboter si longtemps que ça, mon petit bourguignon, » disait la maîtresse du lieu. « J'ai de la besogne ce matin par-dessus la tête, vous le savez bien. Qu'est-ce que vous voulez pour déjeuner ?»
Comme d'habitude, la maman.
Ne mangez pas trop, c'est un bon conseil que je vous donne. Sans ça, vous n'aurez plus faim pour le repas de tantôt.
Soyez paisible, la maman, on veillera sur son appétit.
Vous avez promis qu'on rirait, fit la servante Marianne en continuant à mettre le couvert.
J'ai promis, je tiendrai.
Vous verrez, je ne vous dis que ça.
Servez-moi vite, je meurs de faim.
La soupe est trempée, dit la patronne.
Où vais-je me mettre ?
« Au fond de la salle, vous voyez qu'on a réservé des tables pour les clients. Allez vous asseoir, je vous sers de suite. »
Ovide se dirigea vers une des petites tables placées près de la cloison, séparant la grande salle du cabinet. Si Amanda avait un instant douté que l'homme qu'elle venait de suivre fût positivement l'ex-baron de Rice, le son de sa voix lui eût enlevé ses doutes. L'identité pour elle était indiscutable. On venait de lui servir une omelette et une tranche de jambon. Ovide, très préoccupé de ce qu'il avait à faire, ne se doutait même pas qu'il y eût quelqu'un dans le cabinet. Marianne vint mettre son couvert et plaça devant lui une écuelle remplie de soupe aux choux.
« Voilà toujours un commencement, » fit-elle. « Je vais vous apporter du pain, du fromage et du vin. »«
Oui, dépêchez-vous, ma brave fille, et je vous montrerai quelque chose. »«
Quoi donc ?»«
Vous verrez. » Amanda, debout auprès du vasistas entrouvert, ne perdait pas une seule des paroles échangées. À travers les rideaux mal joints, elle apercevait Ovide lui tournant le dos. Marianne revint et plaça sur la table les objets annoncés.
« Maintenant, reprit-elle, qu'est-ce que vous allez me montrer ?»«
Ah ah, curieuse, vous êtes pressée. Eh bien, vous allez voir. » Ovide tira de sa poche 2 petites boîtes de maroquin, l'une rouge et l'autre noire. Il ouvrit celle de maroquin rouge. Sur une doublure de velours bleu brillait une paire de boucles d'oreilles.
« Eh bien, qu'est-ce que vous dites de ça » demanda-t-il.
« Dame, je dis que c'est du joli et que ça vaut de l'argent. Est-ce que c'est un cadeau que vous comptez faire à maman Lison ?»«
Tout juste. »
« Eh bien, c'est gentil de votre part et la pauvre chère femme sera bien contente.
Je le désire et je l'espère.
Moi, j'en suis sûre. Dans l'autre boîte, qu'est-ce qu'il y a ?
Encore une paire de boucles d'oreilles.
Vous lui en donnerez 2 paires, alors ?
La seconde n'est point pour elle.
Pour qui donc ?
Pour vous, Marianne.
La servante devint rouge jusqu'aux oreilles.
Pour moi ? Répéta-t-elle.
Oui, ma fille, et dites-moi si elles sont de votre goût.
Ovide ouvrit le second écrin.
Marianne poussa un cri de joie.
« Mais c'est magnifique ! » s'écria-t-elle.
« Vous vous moquiez, bien sûr, en disant que c'est pour moi.
Je ne me moque pas du tout et je suis enchantée de vous être agréable. »«
Oh, merci, monsieur Pierre. Merci, merci. Vous êtes trop gentil. Je les mettrai quand j'irai m'habiller pour servir. » »«
C'est ça, ma fille. » La servante referma la petite boîte, la glissa dans sa poche et reprit.
« Monsieur Pierre, j'aime bien qu'on chante. Vous nous chanterez des bêtises, hein ?»«
Tant qu'on voudra. »«
Faudra faire chanter tout le monde. »«
Tout le monde chantera. »«
Même la maman Lison ?»«
La maman Lison comme les autres. »«
C'est ça qui serait drôle. »« Mais je crois bien que vous n'y parviendrez pas. »«
Elle a toujours l'air de partir pour un enterrement. »« Impossible de l'égayer. »«
Si vous vouliez, Marianne, ce serait bien facile. »«
Comment ça ?»
Il ne s'agirait que de la rendre un peu pompette, de lui donner un petit plumet.
Mais ce n'est pas moi qui servirai à boire.
Inutile qu'elle boive beaucoup.
Alors, comment ça dépend-il de moi? Qu'est-ce qu'il faudrait faire?
À cette minute précise, la patronne appela Marianne.
Attendez une minute, fit la servante, je vais revenir.
Et Marianne se rendit au fourneau où la maîtresse du logis avait un ordre à lui donner. Au bout de 2 ou 3 minutes, elle accourut rejoindre Soliveau.
« Vous disiez donc, reprit-elle curieusement, qu'il ne faudrait pas qu'elle boive beaucoup, maman Lison, pour être un peu pompette et se mettre en gaieté ?»«
Je disais cela. On boira des liqueurs, n'est-ce pas, après le café ?»«
Et pendant, et même avant, ce sera un banquet où rien ne manquera. »«
Alors, nous pouvons nous entendre. Après le café, je dirai que je paye ma bienvenue. » Je ferai mon cadeau à maman Lison et on l'arrosera d'un verre de vraie chartreuse. Eh bien, il ne s'agit que de verser dans un des carafons que vous mettrez de côté une cuillerée d'une certaine liqueur que j'ai apportée.
Si ça allait lui faire du mal à cette pauvre femme, s'écria Marianne.
Du mal, jamais de la vie, répliqua Soliveau. Ça la rendra gaie, tout simplement, et nous lui ferons chanter ensuite ce que nous voudrons, même des gaudrioles.
« Vous m'assurez que ça ne peut pas l'indisposer, » reprit Marianne avec insistance.
« Je vous le jure, foi de Dijonais et de bon enfant. »«
Eh bien, alors ça va. »«
Quand je me lèverai pour faire un speech, vous vous apprêterez, » poursuivit Ovide. « Je demanderai de la chartreuse afin d'arroser mon cadeau et vous remplirez le verre de maman Lison. »«
Mais si j'en versais aux autres ?» demanda la servante.
« Ah, pas de plaisanterie !» Tout le monde aurait un plumet.
Ça serait rigolo.
Non, car on ne s'entendrait plus. Ça serait à qui parlerait et chanterait le plus fort.
Au fait, c'est vrai. Je tiendrais 2 carafons, chacun d'une main, et sans en avoir l'air, je ne verserai qu'à maman Lison celui qui sera préparé.
C'est bien ça.
Où est-elle, votre liqueur?
Il faudrait me donner 1 carafon de chartreuse. Je la verserai moi-même, car vous pourriez en mettre trop.
Alors l'effet serait manqué.
Au lieu de la gaieté, ce serait le sommeil qui viendrait.
Je vais chercher ce qu'il vous faut.
Marianne s'approcha d'une table sur laquelle le sommelier transvasait des alcools de diverses couleurs dans de petits flacons numérotés. Chaque numéro constatait le nombre de petits verres que le récipient pouvait contenir.
« Jacques, demanda-t-elle, vos carafons de chartreuse sont-ils prêts ? » ?»«
Oui, mademoiselle Marianne.
Donnez-moi 1, s'il vous plaît. »
« Les voilà, choisissez-vous-même. »
La servante en prit 1 et rejoignit Ovide.
Celui-ci avait d'avance tiré de sa poche le flacon acheté à New York et dans lequel il restait, nous le savons, les 3/4 du liquide. Il retira du carafon la valeur d'un petit verre de chartreuse qu'il remplaça par la même quantité de liqueur canadienne. Il agita pour opérer le mélange, reboucha le carafon et le tendit à Marianne en lui disant
« Surtout, ne le mêlez pas avec les autres !»
« Soyez tranquille, » répondit-elle en le mettant dans sa poche. « Je sais où le placer, et je ne me tromperai pas. »
Ovide se frotta les mains.
« Ma parole, je crois que nous allons bien rire, » s'écria-t-il joyeusement.
« J'en ris d'avance, » appuya la servante, et elle quitta le Dijonais pour reprendre le cours de ses travaux. Le misérable acheva tranquillement son déjeuner. Pas une des paroles échangées entre lui et Marianne n'avait échappé à Mademoiselle Amanda, nous le savons. Passant tour à tour de la surprise à la stupeur, puis à l'épouvante, elle se demandait quelle était la personne qu'on appelait Maman Lison et à qui Ovid Soliveau voulait faire boire l'infernale liqueur qui avait failli la tuer elle-même à Bois-le-Roi. Quel crime cet homme avait-il donc encore à commettre? Quel projet sinistre échafaudait-il? Une sueur froide mouillait les tempes de l'essayeuse de Madame Augustine. Ce qu'elle venait d'entendre lui causait une oppression singulière, l'anéantissait en quelque sorte. Tout à coup, elle releva la tête et sa physionomie devint énergique, tandis qu'une flamme passagère s'allumait sous ses paupières. Par l'entrebâillement du rideau, elle jeta un regard sur Ovid qui venait de quitter sa chaise et allumait une cigarette. La maîtresse de l'établissement s'approcha de lui. « Eh bien, avez-vous trouvé du travail ?» lui demanda-t-elle. « Pas encore, mais je me suis présentée hier dans une maison du quartier, et on m'a dit de repasser aujourd'hui, » répondit-il. « J'y vais. »« Bonne chance, alors. Merci, la bourgeoise. Vous savez qu'on se met à table à midi sonnant. »« Oui, oui, aucun danger que je m'attarde. Je serai là d'avance pour prendre un bitaire. »« Il n'est que 10 heures, j'ai grandement le temps de faire ma course. »« Allez donc, et revenez vite. » Ovid quitta la grande salle, traversa la boutique donnant sur la rue et sortit du rendez-vous des boulangers. Amanda avait suivi de l'œil tous ses mouvements. Elle le vit s'éloigner, mais ne bougea pas. Quoique son repas fût achevé, elle attendit quelques minutes dans une immobilité complète. Marianne vint débarrasser la table sur laquelle Ovid avait déjeuné. Mademoiselle Amanda, approchant alors sa bouche du vasistas entr'ouvert, permettant d'entendre tout ce qui se passait dans la salle, et réciproquement, appela d'une voix un peu basse mais très distincte. « Mademoiselle Marianne !» La servante regarda tout autour d'elle d'un air ahuri et demanda « Qui me parle ?»«
Moi !»«
Où ça, vous ?»«
Dans le cabinet. Voulez-vous venir un instant? J'ai quelque chose à vous dire. »«
J'y vas !» Amanda ferma le vasistas et laissa retomber le rideau. Marianne parut. « Vous avez besoin de moi, madame » fit-elle en entrant.
« Oui, mademoiselle. »
« Tout à votre service. De quoi s'agit-il ? » ?»«
Je vais vous l'apprendre. Il y aura un grand repas chez vous aujourd'hui. »«
Oui, madame, un banquet en l'honneur de Lise Perrin, qu'on appelle généralement dans le quartier Maman Lison. »«
Quelle est cette Maman Lison ?»«
Une brave porteuse de pain, qui a failli être écrasée samedi dernier rue Gillecoeur, par un échafaudage dégringolant du haut d'une maison en construction. » Amanda se sentit frissonner. Marianne poursuivit. Tous les garçons boulangers, tous les porteurs et les porteuses de pain du quartier aiment Maman Lison. Ils se sont cotisés pour lui offrir un banquet de réjouissance.
Et cette brave femme, vous l'aimez aussi sans doute, vous, Mademoiselle Marianne?
Mais certainement que je l'aime. C'est une si digne créature.
Eh bien alors, Marianne, vous ne ferez point ce que l'homme avec qui vous causiez tout à l'heure vous a conseillé de faire.
La servante demeura stupéfaite.
Comment savez-vous?
Balbutia-t-elle au bout d'un instant. Mademoiselle Amanda étendit sa main vers le vitrage et dit « Le vasistas était ouvert, j'ai tout entendu. »
Alors, madame a dû comprendre qu'il s'agissait d'une simple plaisanterie, d'une farce inoffensive. On veut s'amuser un brin et rendre gaie Maman Lison, qui a toujours l'air de broyer du noir.
Vos intentions ne sont pas mauvaises, je le sais, Marianne, mais vous y renoncerez.
Pourquoi ça ? Croyez-vous que le Dijonnais ait mis dans le flacon quelque chose qui puisse faire du mal à Maman Lison ?
Je crois qu'il agit dans un but qui n'est pas du tout celui d'égayer la pauvre femme.
Vous connaissez donc le Dijonnais, madame ?
Je le connais, et je vous jure sur tout ce qu'il y a de plus sacré au monde que cet homme a de méchants desseins. En conséquence, je vous supplie de ne le point aider à les exécuter.
De méchants desseins ? Répéta Marianne tremblante.
« Oui, Marianne, voulez-vous gagner 200 francs ?»«
Tout de même, et empêcher qu'on ne commette une action odieuse. »«
Oui, madame, je le veux bien, et même je le désire. »« Pas tant pour les 200 francs que pour empêcher le mal. »«
Moi qui croyais ce monsieur Pierre un si brave homme, et qui ai accepté de lui un cadeau. »«
Ce cadeau, gardez-le. »«
Ah, le brigand qui voulait me faire complice d'une méchanceté contre Maman Lison. » Si je pouvais lui rendre la monnaie de sa pièce en lui jouant un bon tour.
Vous le pouvez, Marianne.
Vrai ? Et comment ?
De la manière la plus simple.
en lui versant à lui ce qu'il vous a dit de verser à la porteuse de pain.
Tiens, mais c'est une idée, ça, madame, et une fameuse. Si ça devait faire mal à maman Lison, il en sera le mauvais marchand.
La dose que j'ai vue verser pouvait être dangereuse pour une femme, mais non pour un homme, répondit Amanda.
Il boira, et alors, Marianne, vous verrez quelles étaient ses véritables intentions.
L'ivresse viendra, avec l'ivresse le besoin de parler, un besoin irrésistible. Alors, il avouera tout haut devant tous ce qu'il voulait faire et quel motif le poussait à agir.
Ce Dijonnet est un ennemi de maman Lison.
Pourquoi, je n'en sais rien, mais le fait est sûr. Il ne faut pas que la pauvre femme tombe dans un piège abominable tendu par lui.
Et, reprit Marianne, pouvant à peine croire ses oreilles, il parlera quand il aura bu. Il dira beaucoup de choses sur lui-même. Il se confessera publiquement.
Oui, ma fille. Eh bien, madame, je vous garantis que maman Lison ne boira pas une seule goutte de la liqueur qu'il a préparée, et que c'est lui, le brigand, qui avalera la drogue.
Mais qu'est-ce donc que ce coquin-là?
Un coquin, vous l'avez dit, et vous en aurez bientôt la preuve.
Je vais avertir la patronne, moi.
Gardez-vous-en bien, car on le chasserait, et nous ne pourrions savoir alors de sa propre bouche quel était son véritable but.
C'est vrai. Nous le saurons quand il aura bu.
Donc, il faut le laisser boire.
Et il boira, je vous en fiche mon billet.